c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Radio Bulle, la radio de la Genêt avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec Real Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Beauvais près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur real-chocolat.com. Real Chocolat fait naître la gourmandise.
Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot et Garonne sur lucien-georgelin.com.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Bulle, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de votre émission hebdo de ce lundi 20 avril, eh bien nous allons vous faire découvrir dans un instant la web-série Paillasson avec le réalisateur Jules Tenier, Fabien Jeudju également le producteur, ainsi que Constance Labbé qui a créé donc cette série que vous aviez vu déjà dans la série Camping Paradis. Nous aurons le plaisir de consacrer une spéciale également à la série Tandem qui fait son retour demain soir sur France 3, Sarah Cheyenne qui joue Alice dans la série, Caroline Bourg qui sera guest dans le deuxième épisode de la soirée. Demain seront donc nos invités exceptionnels pour en parler avec nous. Emmanuel Blanchard également, le réalisateur du très beau documentaire Notre-Dame, les secrets des bâtisseurs qui sera diffusé jeudi sur France 5, sera également notre invité aujourd'hui. Et puis Lou Denis et Lyon également, que vous avez adoré hein, dans le rôle de Cédric dans Scène de ménage. Et bien Lou Denis est de retour dans le rôle de Jérémy dans la série Réunion depuis mercredi dernier et nous a bien fait rire. Et là il va devoir faire face à l'arrivée de sa mère avec laquelle il est brouillé sur l'île de la Réunion et nous en parle tout à l'heure et sera notre invité en ligne avec nous. Vous l'avez compris, même en plein confinement, eh bien on va pas s'ennuyer encore une fois et on va tout de suite passer en revue les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Et on va commencer par lundi dernier, le très beau succès du 7e épisode de la saison 3 de la série Les Bracelets Rouges. Avec 20% de parts de marché et 5 763 000 téléspectateurs, la série arrive en tête. Meurtre au paradis s'en sort bien sur France 2, 16,1% de parts de marché et 4 824 000 téléspectateurs. Et puis vous êtes toujours aussi nombreux également à regarder Les Aventures des Gendarmes sur M6. Et Le Gendarme en balade a séduit 2 863 000 téléspectateurs pour 10,4% de parts de marché. Il y avait mardi Harry Potter à l'école des sorciers sur TF1. C'est un très gros score, 7 512 000 téléspectateurs et 30,5% du public. Mais c'est un beau score également pour le téléfilm Mauvaise Mère sur France 3 avec 11,9% de part de marché et 3 261 000 téléspectateurs. Au coude à coude avec France 2 qui programmait le documentaire Sauver Notre-Dame avec 11,8% de part de marché et 3 254 000 téléspectateurs. C'est une déception par contre pour M6 qui programmait Péplum avec seulement 1 419 000 téléspectateurs et 5,2% de part de marché. La série est tout simplement dès cette semaine déprogrammée. Mercredi, il y avait Grey's Anatomy sur TF1. Tout le monde arrive dans un mouchoir de poche hein, mercredi dernier. Grey's Anatomy fait 3 886 000 téléspectateurs pour 14,7% de part de marché. Top Chef arrive deuxième avec 3 840 000 et 15,4% de part de marché. Réunion sur France 2 arrive troisième avec 3 739 000 téléspectateurs et 14,1% de part de marché. Très en dessous, c'est la carte au trésor avec 9,7% de part de marché et 2 289 000 téléspectateurs. Jeudi, on a retrouvé la 7e compagnie. C'est une bonne nouvelle avec 26,3% de part de marché. C'est un carton et 6 904 000 téléspectateurs. Why Woman Kill sur M6 arrive deuxième avec 3 879 000 téléspectateurs et 14,1% de part de marché. Et puis, c'est un score très faible pour France 2 avec son documentaire et après la grande émission des Européens avec 5,4% de part de marché et 1 281 000 téléspectateurs. C'est un véritable flop pour France 2. Et puis vendredi, il y avait Koh-Lanta sur TF1. L'île des héros a séduit 6 962 000 téléspectateurs pour 24,4% de part de marché. Et c'est un retour en fanfare pour Candice Renoir sur France 2 avec 6 465 000 téléspectateurs et 22,1% de part de marché. La série s'initie son record d'audience toute saison confondue. Et puis c'est un beau score également pour France 3 pour le documentaire Brassens par Brassens avec 2 972 000 téléspectateurs. spectateurs quand même, mine de rien, avec 10,9% de part de marché. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière. Et on va tout de suite eh bien, parler ensemble et vous faire découvrir la web-série Paillasson dans Chut, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, coup de cœur série web, série digitale que l'on va vous proposer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé avec cette web fiction Paillasson en plusieurs épisodes écrit par Constance Labbé. Vous aviez pu voir notamment dans des séries comme Camping Paradis et Constance est avec nous justement. Bonjour Constance.
Bonjour.
À l'écriture, merci Constance d'être avec nous. Nous avons également Fabien Jurdju qui est avec nous. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Qui est le producteur de cette fiction, et Jules Tenier qui est à la réalisation. Bonjour Jules.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Qui est l'instigateur de Paillasson?
C'est moi. C'est moi qui...
Plaide coupable.
Je plaide complètement coupable. C'est moi qui ai écrit ce programme qui était à la base une pièce de théâtre que j'ai adaptée en programme court parce que j'avais envie que ça existe et que surtout ça soit finalement audiovisuel. Et que j'avais... proposé, et il y a une petite année, Fabien, avec sa boîte de prod N Télévision, est venu me chercher pour qu'on le développe ensemble. Donc, on l'a développé, et puis on a trouvé Jules Tenier qui a accepté de le réaliser. Et
l'histoire en quelques mots, alors tout se passe beaucoup sur un paillasson, sur une entrée. Ça ressemble beaucoup aux fictions courtes type caméra café ou choses comme ça qui se passent vraiment dans un endroit centralisé où on peut effectivement multiplier à foison les intrigues qui peuvent s'y passer finalement. Donc l'idée est plutôt bonne quoi.
Bah merci beaucoup. Ouais, j'avais envie d'écrire une histoire d'amour qui s'érode dans le quotidien. Et j'ai remarqué que souvent on parle des sujets qui fâchent à propos de choses un peu anodines comme les courses, les clés, la serrure, le paillasson et tout ce qui est finalement bête. Donc j'avais envie de faire ça sur ce palier, sur ce paillasson de l'appartement de Lou, qui est donc l'héroïne que j'interprète et qui va inviter Joe à vivre chez elle parce qu'elle tombe amoureuse de lui, qui est interprétée par un super comédien qui s'appelle Éric Pucheux, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qu'on embrasse très très fort.
Jules, à la réalisation, on connaît un peu l'économie hein, d'une web-série, c'est pas toujours évident, il y a souvent un manque d'argent, mais est-ce que ça vous a laissé un petit peu le temps quand même d'avoir des moments drôles pendant le tournage, ou des scènes qui ont tourné un peu des fois à la rigolade, voire même au fou rire?
En fait, sur le scénario, on partait d'un truc un peu comédie, plus classique, et en fait, assez vite dans le développement, on a tiré un peu vers du drama, vu qu'il y avait au cœur un événement un peu plus dramatique, et puis, je suis désolé, je spoil, ça commence et finit, enfin, ça finit par une séparation. Donc, on n'était pas dans un registre officiellement comédie d'entrée, en fait. Et sur le palier, du coup, assez vite, ça se développe vraiment, on sort au fur et à mesure de la comédie, au bout de 3 épisodes, je crois, sur 7. Et on a pu développer autre chose, quoi, en fait. Mais c'était super intéressant.
La question, c'est est-ce qu'il y a eu des fous rires sur le tournage hein?
C'est très bien rappelé. Merci, t'as vu merci. Hein, merci de remettre les questions qui ont sens.
J'en ai pris pour mon grade.
C'est pareil sur le tournage? Oui. Dit, attends, c'est pas ça que j'ai écrit. Hein.
Alors ça a été, on s'est à peu près accordé là-dessus, chacun à sa place, et c'était très agréable là-dessus. Non, mais il y a des moments, parce qu'effectivement, l'économie de ce genre de tournage fait qu'on est quand même assez en tension et tout. Moi, je suis pas toujours des plus drôles tout le temps. Et voilà, il y a des moments où, du coup, sur le jeu d'acteur, sur l'intensité de certaines scènes, tellement de paramètres à prendre en compte, je suis pas assez attentif à eux et tout ça, et je m'en suis pris un peu pour mon grade à certains moments, mais c'était marrant et intéressant.
Le plus grand fou rire, c'est qu'en fait, Jules a la fâcheuse habitude de finir une prise, même quand c'est très dramatique, par « Mouille, on va la refaire ». Et donc, quand t'es comédien et que tu viens de pleurer, d'être hyper concentré et que le réal, il fait « Mouille », c'est un petit peu violent. Donc, c'était les plus grands fou rires, c'était d'imiter Jules. Voilà.
Je donnerai pas ma version, mais forcément, chacun raconte l'histoire à partir du moment où ça l'arrange. Voilà.
Fabien, le rôle du producteur dans cette histoire?
Bah, c'est essayer de faire la série avec, comme vous l'avez dit, un budget restreint.
Les moyens du bord.
C'est à peu près ça. Et après, essayer de fédérer une équipe, déjà, voilà, super auteur avec qui on s'est entendu immédiatement. Et du coup, c'est voilà, travailler un scénario, essayer de faire le mieux qu'on peut avec l'argent qu'on a, réfléchir aussi, avoir en tête les contraintes et essayer de produire une œuvre de qualité et s'entourer des meilleures personnes à tous les postes. Jules fait partie de cette équipe et je pense que C'est comme ça qu'on a pu produire cette série.
Alors il y a 7 épisodes là pour l'instant que l'on peut voir. Est-ce qu'il y a déjà une saison 2 dans les tiroirs? Est-ce que tu as commencé à écrire dans ce sens, Constance?
Tout à fait. J'ai écrit j'ai pas écrit entièrement la saison 2, mais j'ai une idée très précise et une arche de saison 2, ouais.
Alors avant cette saison 2, maintenant, où c'est qu'on peut la voir cette saison 1? Raconte-nous.
Alors je vais laisser Fabien qui va répondre de manière beaucoup plus précise, parce que moi je suis nulle à cette question.
Oui, c'est le producteur, celui qui a les sous qui...
Exactement.
Alors c'est sur Pickle TV. Alors très, très peu de vos éditeurs, je pense, vont connaître cette chaîne, mais c'est une chaîne en fait du bouquet Orange. Donc en fait, il faut avoir une box Orange. Et après, donc voilà, déjà pour ceux qui n'ont pas de box Orange, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'application. Mais en tout cas, sur les box Orange, il est possible de s'abonner à ce service qui s'appelle Pickle TV et qui regroupe de nombreuses chaînes, dont Golden Stories qui diffuse Paillasson.
Bon, Paillasson, en tout cas, si vous pouvez le découvrir, allez-y. Vous avez une box Orange, vous avez Pickle TV, eh bien allez-y. Voilà, découvrez en tout cas cette œuvre écrite par Constance Labbé et réalisée par Jules Ténier qui est avec nous. Merci à tous les trois d'être venus.
Merci beaucoup, beaucoup.
Merci.
Merci, et il y a un teaser disponible si vous cherchez un peu sur Facebook.
Ah, très bien. Ben nous, on va le passer. Tiens, on va vous faire écouter ce que ça donne, Paillasson, c'est ça.
Putain, mais comment ?
Par va.
Oh, merde, laisse-moi passer. Bonjour. Je crois que je me suis trompé d'étage.
Mais quand tu dis sans promesse et sans mensonge, ça veut dire que je pourrais pas te mentir quand tu me demanderas si j'ai pété.
Lou, je suis sérieux, là.
Tu m'as mis une piscine, j'aime bien. Ça, c'est pour toi. Que tu te sentes là chez toi, chez moi. Comme ça, tu pourras rentrer même quand je suis au cabinet.
Excuse-moi. De quoi t'as peur?
Attends, t'es sérieux, là? Je promets que tu m'aimeras toujours.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour notre spécial tandem avec Sarah Cheyenne et Caroline Bourg. Lou Denis Lyon également sera notre invité. Emmanuel Blanchard, également le réalisateur du documentaire Notre-Dame de Paris, les secrets des bâtisseurs. Tout ça, c'est dans un instant dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Indiscrétion, scoop. News, tout de suite, l'infomédia.
Et dans l'infomédia de cette semaine, voici les films que vous pourrez voir à 14h tous les après-midi sur France 2. Demain, mardi 21 avril, vous pourrez revoir Trois hommes et un couffin avec André Dussollier, Roland Giraud et Michel Boujna. Mercredi à 14h, c'est Neuilly sa mère, le film de Gabriel Julien Laferrière avec Samy Séguir. Jeudi à 14h, c'est le film de Bernard Noer, c'est Nuit d'ivresse avec Josiane Balasco et Thierry Lhermitte. Et enfin, un autre classique du cinéma vendredi à 14h, une époque formidable, le film de Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot et Richard Bohringer. Julien Bugier présentera le jeudi 7 mai à 21h05 sur France 2 un numéro hors série du magazine Cellule de crise intitulé L'histoire secrète de la victoire, consacré évidemment à l'anniversaire des 75 ans de la victoire du 8 mai 1945. France 3 propose tous les week-ends un nouveau jeu en mode confiné où les téléspectateurs répondent depuis chez eux à des questions sur les habitudes des Français dans Jouons à la maison, présenté par Alex Good les samedis et dimanches à 20h30. Quatre candidats s'affrontent en trois manches avec 5000 euros à la clé, précise France 3 dans un communiqué. Ils doivent répondre pour cela à des questions sur ce que les Français préfèrent manger, sur ce qu'ils aiment regarder à la télévision ou lire, ou comment et à quel rythme ils organisent leur journée, particulièrement en cette période de confinement, indique France 3. Et donc depuis le week-end dernier également, eh bien, une nouvelle fiction courte a débarqué sur France 2 le dimanche à 20h55. Une fiction courte intitulée Au secours, bonjour. Une nouvelle comédie en prise avec le réel qui croque le quotidien des Français, rythmée de questions et d'appels vidéo, annonce le diffuseur, avec un casting d'exception puisqu'on retrouve notamment la participation dans cette série courte d'Olivier Barou, Alice Belaïdi, Michel Bernier, Marina Foïs, Elise Moon, Jean-Paul Rouve, Manu Payette, Géraldine Nakache, Jonathan Cohen et bien d'autres encore, des scénettes écrites par le duo Julien Hervé et Philippe Méchelen. Et la chaîne France 3, l'UMNI et le ministère de l'Éducation nationale s'associent autour du programme Tous prêts pour la dictée. Diffusion le 6 mai prochain, 13h45. À situation exceptionnelle, dispositif adapté. La dictée sera proposée en mode confiné aux milliers de collégiens de 3e et de leur famille, ainsi qu'aux amoureux de la langue française. Alors, préparez vos stylos. Et tourné en mars 2019, le téléfilm Meurtre en Corrèze débarque sur France 3 le samedi 2 mai. Réalisé par Aline Darrow, le téléfilm aura notamment au casting Ariel Malé, Carole Bianic ou encore Joyce Jonathan.
nos coups de cœur télé cette semaine.
Et sur TF1 ce soir, et bien dans nos coups de cœur télé, vous pourrez retrouver bien sûr le dernier épisode des Bracelets Rouges. Sur France 3, Le Monde de Jamy avec Thomas Pesquet, La Tête dans les Étoiles, un documentaire de Laura Miret et Mathieu Dubosc, bande annonce.
Événement sur France 3, avec Thomas Pesquet, Jamy et Églantine, partez à la conquête de l'espace.
C'est assez incroyable, mais il faut apprendre à son cerveau que si on lâche, eh ben on tombe pas.
Suivez la même préparation que les astronautes.
Jamy, je vole !
C'est dingue !
C'est pour ça qu'il faut s'entraîner avant d'aller dans l'espace.
Bravo Églantine.
Quand on est ici, on a un peu l'impression d'être sur une autre planète.
Soyez prêts pour la prochaine mission.
D'aller tous vers Mars, ce sera un exploit encore plus dingue.
Passez la soirée La Tête dans les Étoiles avec un monde de Jamy exceptionnel et inédit. Lundi à 21h sur France 3.
Et demain mardi, pour s'évader, eh bien vous allez pouvoir revoir sur France 2 Le Plus Beau Pays du Monde, un documentaire de Frédéric Fouja et Jacques Malaterre avec des images absolument magnifiques. Et juste après, notre spécial tandem avec notamment la jolie Sarah Cheyenne et Caroline Bourg qui seront nos invités.
Il existe sur notre planète un pays béni par la nature. Un pays où les terres riches, fertiles et bien arrosées ont donné naissance à une vie sauvage exceptionnelle. Ce pays, c'est le vôtre, et vous allez le découvrir comme vous ne l'avez jamais vu. Un territoire doué d'une nature prodigieuse. Un pays qui, par sa diversité, a attiré des hommes depuis des millénaires, la France. Les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter. Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. Mais ils ne sont pas dans un autre monde. Des hommes et des femmes partagent leur vie. Ils luttent pour survivre, se battent et se réconcilient. Ils se choisissent pour donner la vie et déploient des efforts immenses pour élever leurs petits.
Allez, coup de cœur télé pour ce mardi consacré évidemment à Tandem qui fait son grand retour pour une saison 4 inédite. Ça sera demain soir sur France 3. On va consacrer une large partie de ces coups de cœur télé à ce retour de cette série qui cartonne avec notamment Astrid Veillon et Stéphane Blancafort. Et celle qui joue, eh bien, la fille de Léa Solaire, l'héroïne, eh bien, c'est Sarah Cheyenne qui est notre invitée. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis c'est une des guests, notamment du deuxième épisode, hein, qui sera diffusé demain soir. C'est Caroline Bourg qui va nous rejoindre dans un instant. Sarah, tu joues donc Alice depuis maintenant 4 saisons, la fille d'Astrid Veillon. On va te voir, on va dire, au début par Skype, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça. Tu vas vite faire ton retour à Montpellier pour de nouvelles aventures. Et surtout, il va arriver beaucoup de choses à ton personnage. Mais d'abord, déjà, première chose que j'ai envie de te demander, est-ce que le tournage de cette saison 4 t'as pris autant de plaisir? Est-ce que tu t'es toujours autant amusée?
Ah bah oui, enfin c'est toujours une partie de plaisir de revenir en tournage sur Tandem, surtout que on a changé notre façon de tourner. Avant, c'est vrai qu'on tournait donc de septembre à décembre, de manière pas non-stop, mais on faisait 3 sessions de 4 semaines et avec une ou deux semaines de pause à chaque fois, enfin peut-être 2 pauses, 2 semaines de pause. Et là, on avait tourné du coup une partie en mars, une autre partie en juin-juillet et la dernière partie en septembre. Bah, c'est génial. Enfin, j'avais repris mes études, moi, personnellement, à la fac de Nîmes. Donc, j'attendais un peu le tournage avec impatience, quoi. Toujours trop cool de retrouver Titouan, Astrid, Stéphane et même toute l'équipe. Il y a une grosse partie de l'équipe technique qui n'a pas bougé presque depuis la première saison, que ça soit chef-op ou metteur en scène, même réalisateur. Donc c'est juste trop bien. J'ai l'impression de repartir avec la même équipe à chaque fois et c'est très très agréable.
Alors, Léa Solaire va devoir faire, non seulement donc avec son ex depuis le début, puisque c'est le principe de la série, mais surtout au retour de son père et du coup de ton grand-père dans la série. Et toi aussi, tu vas faire ton retour vraiment en personne, hein, pas uniquement par écran interposé, avec un petit cadeau en plus. Hein.
Exactement, ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai que là, la saison 4, elle s'est un peu élargie sur l'intrigue familiale des Solaires, puisque voilà, il y a mon grand-père qui arrive, c'est un personnage dont on a un peu entendu parler, enfin qu'on entend parler au fil des saisons, mais qu'on ne voit pas. Et là, enfin, on peut mettre un visage et ça a été super en fait de tourner avec le comédien. Et il était adorable, Patrick. Et du coup, c'était trop cool. Et moi, ben, je vais revenir avec un petit cadeau. Ouais, c'est pas qu'on peut appeler ça. Enfin, si on va appeler ça un cadeau, on va pas appeler ça autrement. Mais j'étais contente en fait de traiter le fait d'avoir tout juste la majorité et de devoir prendre une décision assez conséquente pour la suite de l'avenir du personnage, quoi.
Et donc oui, puisque Alice revient enceinte et va devoir faire des choix. Et des choix difficiles pour une jeune fille.
Je pense que c'est quelque chose, même moi quand j'ai eu le scénario au début, j'étais assez surprise. Je pense que c'est quelque chose auquel, pour ma part, du coup, je m'y attendais pas du tout. Et je pense que les spectateurs ne s'y attendent pas, parce qu'Alice, depuis 3 saisons, c'est la première de la classe, même si dans la saison 3, je fais un peu ma rebelle, avec ce côté rock'n'roll. Mais sinon, la jeune bonne fille, la bien élevée. Et là, d'un coup, il m'arrive. Alors, ça veut pas dire que quand on tombe enceinte, on est mal élevé et on ne peut pas être première de la classe. Mais je pense qu'on avait donné une sorte de casquette à Alice, une sorte de masque de jeune fille. Et que là, d'un coup, elle prend un masque, je trouve, un peu plus adulte.
Ça t'a fait réfléchir aussi à titre personnel, une intrigue comme ça, un scénario comme celui-là?
Ouais, c'est vrai que du coup, à la suite du tournage, j'en ai discuté avec Romain, celui qui joue le personnage de mon petit ami dans la série, et qui est notamment très présent dans la décision que prend Alice. En fait, j'en discutais avec lui d'un point de vue humain, pas d'un point de vue scénaristique. Et en fait, en même temps, il y avait un concours qui s'appelait À ton cours, organisé par France 3, qui est en plus la chaîne qui nous diffuse. Et le thème, c'était tous égaux pour l'interrogation. Et du coup, je lui en ai parlé, et enfin, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble. Et j'ai écrit un court-métrage, donc dont le titre s'appelle Ensemble. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe enceinte et qui, en fait, dans un premier temps, pense qu'elle est toute seule dans cette situation-là de devoir prendre une décision concernant l'avortement. Et au final, elle se rend compte que non, elle n'est pas toute seule, quoi. Et du coup, oui, ça m'a fait réfléchir. Et pour écrire le scénario, je suis allée toquer à la porte de certaines copines, de connaissances. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas genre juste à la télé, ou c'était pas juste dans des émissions, ou juste des témoignages. Ça touchait aussi tout autour de moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ça arrivait à plus de jeunes filles qu'on ne pense.
Exactement. Une saison donc axée sur cette histoire. Alors, avortera-t-elle ou pas? C'est toute la question qui se posera pour Alice dans cette saison 4 et qu'on va suivre donc dès demain soir, bien évidemment, à 21h05 sur France 3. Un rendez-vous à ne pas manquer, chère Sarah.
Je fais confiance aux Français et aux Françaises pour regarder Tandem et pas regarder pour la millième fois Harry Potter. Parce que je pense qu'Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est le film qu'on a assez vu. Ils n'ont pas envie de voir des araignées. S'ils n'ont pas envie de voir un gros serpent. S'ils n'ont pas envie de voir Emma Watson, même si elle vient de fêter ses 30 ans, il faut regarder Tandem.
Voilà, exactement. Regardez Tandem et on va reparler dans un instant, juste après, un petit extrait pour commencer de cette saison 4. Et puis on va accueillir Caroline Bourg juste après, qui va venir nous parler du guest de Nathalie Parisot, le personnage qu'elle incarne, dans le deuxième épisode que vous pourrez voir demain soir de cette quatrième saison. Merci beaucoup Sarah d'avoir été avec nous.
Mais merci beaucoup Alain, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et d'avoir de tes nouvelles.
Eh ben nous aussi, on t'embrasse et on te dit à très très vite Sarah.
À très vite, merci beaucoup et bon confinement à tous.
Inédit mardi sur France 3.
Marshall est là.
Il n'est pas encore vu.
Tandem. Tout le monde répond à l'appel.
Ah, Marshall, on a failli vous attendre.
Hop, hop, hop. Eh oh, moi à 8h, j'étais au bureau. Hein.
Fin prêt pour cette nouvelle saison.
Vous avez des infos?
Ouais, j'ai plein de suspects.
Comme quoi, hein. Pense.
Prêt à se surpasser.
Ça me suffit pas.
Ça suffit pas.
Et apparemment, ça lui suffit pas.
Prêt à tout changer.
C'est quoi tes projets de vie? Côté boulot, côté amour?
Situation complexe.
Un tandem en pleine révolution, nouvelle saison inédite, mardi à 21h05 sur France 3.
Allez, on continue notre coup de cœur télé avec Tandem. Vous savez qu'il revient donc demain soir sur France 3. Et c'est une des guests qui va donner la réplique à celui qu'elle a chassé corps et âme dans Plus belle la vie, Laurent Hennequin, sous le rôle de Pavel. Eh bien, c'est Caroline Bourg qui nous rejoint. Bonjour Caro.
Bonjour ou bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je suis très très heureux de t'avoir, Caroline. Alors, il est vrai que ça n'a pas été de tout repos cette chasse à Pavel dans Plus belle la vie. Et là, du coup, dans l'épisode de Tandem de demain soir, tu vas donner la réplique dans l'épisode Dernière danse à Laurent Hennequin. Vous vous retrouvez.
Exactement. Et donc, nous sommes ennemis sur Plus belle la vie. Et donc demain, vous allez voir que nous sommes mariés. Comme quoi, à la télévision, tout est possible.
Alors, tu es arrivé sur Tandem, hein, cette série qui est tournée donc du côté de Montpellier. C'est la saison 4. Donc toi, tu vas être dans le deuxième épisode de cette saison, dans le rôle de Nathalie Parisot. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette Nathalie Parisot qui n'a rien à voir avec, évidemment, le campeur de Camping Paradis, hein?
Oui, rien à voir, mais c'est vrai que juste après, j'ai tourné Camping Paradis, donc c'est vrai que c'était un petit peu perturbant pour moi.
Alors, pour résumer un petit peu, ton personnage, Caroline, il faut le dire, c'est la première suspecte, la suspecte numéro 1, mais il faut toujours se méfier des apparences. Est-ce que les choses sont aussi faciles que ça?
Eh bien, non, mon cher Alain, sinon ce serait pas rigolo. Non, écoutez, mon personnage fait partie d'une troupe de danse. Voilà, et c'est la préférée du metteur en scène et du chorégraphe, qui est retrouvée mort en début d'épisode. Et donc forcément, dans les premières images, la personne, on m'aperçoit, et est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Il faudra regarder l'épisode pour le savoir.
Mystère.
Exactement.
Comment ça s'est passé, vous retrouvez avec Laurent?
Bon, on ne se connaissait pas, figurez-vous. Puisqu'on s'est rencontrés sur Tandem. Je ne sais pas s'il était déjà arrivé sur Plus Belle, mais en tout cas, nous, on ne s'était pas rencontrés avant. Et lui ne savait même pas qu'il allait être Pavel, donc c'était assez rigolo. Mais notre rencontre s'est très, très bien passée. On s'est très bien entendu. C'est un mec super, c'est un très bon comédien et c'est vraiment un bonheur de travailler avec. Donc c'était chouette, c'était vraiment une belle rencontre. Et donc, quand j'ai su que c'était Pavel sur Plus Belle, bah, ça m'a fait vraiment rigoler pour le coup, parce que marié d'un côté et ennemi de l'autre, c'était assez fun.
Alors, t'étais dans notre émission il y a moins de 2 mois, hein, justement, pour nous parler de Plus belle la vie et en même temps, surtout aussi de cette intrigue de Elsa. Il faut dire que tu as été au cœur des intrigues ces derniers mois dans Plus belle la vie. T'as dû tourner quand même pas mal, hein?
Oui, c'était une grosse dose de boulot. Je crois que j'ai tourné, si ma mémoire est bonne, 136 scènes sur 2 mois et demi. Donc, c'est le... Si ce n'est pas le record, en tout cas, ce n'est pas loin du record de nombre de scènes tournées pour une intrigue. Et j'étais hyper heureuse parce que je l'ai voulu, je l'ai demandé. C'était un challenge aussi pour moi parce que j'aime énormément mon personnage d'Elsa, mais c'est très peu développé. C'était toujours un peu, il dépendait de Karim, qui dépendait d'Abdel. Et donc moi, j'arrivais en bout de course. Et là, j'ai demandé à la production, je dis, les gars, écrivez-moi quelque chose. Et ils l'ont fait, et quel cadeau. Alors, c'est une intrigue qui n'a pas plu à tout le monde, parce que c'est vrai que le sujet est un peu lourd, il y a beaucoup de violence, et c'est très, très noir, et l'actualité a souffert aussi, on a souffert aussi de l'actualité avec les grèves, etc. Mais finalement, les retours que j'ai est assez positif, en fait, puisque ils étaient assez surpris de me voir incarner un personnage aussi fort, puisque c'est quand même Elsa, pour le coup, là, on l'a vraiment vue dans toute sa force, dans tout son courage et dans sa droiture aussi. Donc c'était super, moi je me suis régalée.
Alors le tournage pour l'instant de Plus belle la vie est suspendu, hein, jusqu'à nouvel ordre, donc je suppose que vous êtes tous suspendus aussi à savoir quand ça va reprendre, mais est-ce qu'on va revoir un peu toute cette famille et surtout les enfants de ton frère qu'on a très peu vu finalement dans l'intrigue principale? Est-ce qu'on va avoir l'occasion de voir cette famille recomposée en quelque sorte?
Alors, c'est ce qui était prévu. Maintenant là, moi je continue à recevoir des textes et je vois Elsa, je vois... Karim et Abdel, donc on est toujours les mêmes. Je nous vois présents avec parcimonie, pas énormément. C'est pas une vraie intrigue sur nous, c'est une intrigue qui dépend d'une autre. Enfin, on est présents dans une autre intrigue. Et effectivement, l'installation de nos enfants, enfin de notre famille au Mistral, était prévue avec les enfants de mon frère. Maintenant, vous l'avez dit, je suis un petit peu dans l'inconnu, quoi. C'est-à-dire, je ne sais pas quand vont reprendre les tournages, quelle intrigue va reprendre, est-ce qu'ils vont continuer ce qui va être arrêté à partir du 1er mai, est-ce qu'ils vont continuer la suite, est-ce qu'ils vont repartir sur de nouvelles intrigues, je ne sais pas. C'est un peu le flou artistique. Voilà, je sais qu'ils avaient prévu, peut-être afin de rattraper vite le retard et de proposer des inédits assez rapidement, de travailler... jour et nuit, puisque quand tu tournes en plateau, tu ne souffres pas t'as pas besoin de la lumière du jour, quoi. Donc, prévoir des doubles équipes, enfin, de relance pour relancer la machine le plus rapidement. Maintenant, qu'est-ce qui sera pas, je ne sais pas, mais normalement, et je croise les doigts, puisque, ouais, j'aimerais vraiment que ça se passe comme ça, ma famille devrait être installée au Mistral.
Alors, pour revenir sur Tandem, hein, dans l'épisode de demain soir, comment s'est passée ta rencontre justement avec Astrid Veillon? Il me semble que vous étiez peut-être croisées dans Sous le Soleil, toutes les deux, non?
Eh bien, non.
Non, vous n'étiez pas croisées à l'époque.
Non, on s'est pas croisées à l'époque. En revanche, en 2010, donc il y a 10 ans, une copine de cours de théâtre a décidé de remonter la pièce de Astrid Veillon. Astrid a écrit une pièce qui s'appelle La Salle de Bain, qui traitait de trois trentenaires en crise de trentenaire aiguë, on va dire. Et c'est une pièce avec cinq femmes, donc trois trentenaires, une nana de 20 ans et une nana de 60. C'est une pièce de femmes et j'ai repris, nous avons repris cette pièce en 2010. Voilà. Et Astrid l'avait jouée en 2005, je crois. Et elle s'était donné le rôle principal, donc le rôle de Loulou. Et moi, j'ai repris son rôle. Et donc, elle est venue nous filer un coup de main, pas sur la mise en scène, puisqu'on avait des metteurs en scène, mais elle nous a donné des conseils précieux. Elle nous a beaucoup aidé pour la com aussi, pour faire un peu de pub sur cette pièce. Et c'était chouette pour moi de... Enfin, c'était impressionnant aussi, puisqu'Astrid, moi, je la regardais quand j'étais plus jeune, dans Extrême Limite ou dans Soufflé, je l'ai pas vu, mais dans Extrême Limite, oui. Et là, je me retrouvais confrontée à elle, à reprendre son rôle. Et c'est difficile quand c'est une reprise de rôle et que tu as la personne qui l'a créée et qui l'a écrite devant toi. Et donc, on s'était bien entendu. Et puis voilà, la vie a fait qu'on ne s'est pas recroisés. Et là, j'arrive sur Tandem et on était très, très heureuses de se retrouver.
C'est génial, ça, une belle histoire de comédienne. Alors, justement, on pourrait faire une surprise à nos auditeurs. Je sais pas ce que t'en penses. Mais comme Tandem est diffusé demain soir, on pourrait se retrouver demain soir à 18h en direct sur Instagram où les auditeurs pourraient tous te poser les questions qu'ils veulent. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, moi, je trouve que c'est une super idée. J'espère que je vais pas dire trop de bêtises parce que c'est pas du tout mon genre. Je dis pas beaucoup de bêtises.
C'est vrai que tu es absolument pas fofolle, moi qui te connais bien.
Absolument pas. Je promis, j'essaierai d'être très sage. Mais avec grand plaisir, oui, bien sûr. Alors, j'espère que la connexion Internet fonctionnera, hein, puisque je suis à la campagne. Et ça va bien se passer, ça va bien.
Bon, eh bien, on se retrouve demain soir à 18h en direct sur notre Instagram Chut, on écoute la télé pour nous retrouver. Vous pourrez poser vos questions en direct, évidemment, à Caroline, qui sera donc mon invitée exceptionnelle pour cette surprise de la semaine. Voilà, Caro, ça te va comme ça?
C'est parfait. Écoutez, merci.
Merci à toi.
Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite bon courage pour le confinement. Voilà, on en parle beaucoup, donc je vais pas en parler, mais voilà, juste bon courage. Il faut
tenir bon.
Il faut tenir bon voilà, je suis sûre qu'on aura des jours meilleurs. Je vous embrasse tous très fort, à bientôt.
Et on se retrouve demain, Caroline, 18h donc sur notre Instagram, et on va se quitter avec un petit extrait de toi dans tes œuvres, dans Tandem justement, puisque l'épisode Dernière Danse sera diffusé à 21h55 demain soir sur France 3. Merci à toi.
Et en attendant une nomination pérenne, le colonel Pierre Soler, ici présent, va assurer le commandement de la brigade pour les 6 prochains mois.
Et je suis ravi de vous rejoindre. Je ne pouvais rêver plus belle fin de carrière qu'en venant ici, près de ma fille, puisque jusqu'à présent...
Voilà, et donc il y a des questions? Eh bien alors c'est parfait, on se remet au boulot.
Et Paul, il n'est pas là?
On a un meurtre à l'agora, je dois le rejoindre sur place.
Ah, très bien, c'est toi qui conduis ou c'est moi?
Mais non, papa. Enfin, mon colonel, je vais gérer.
Je sais que tu gères, ma chérie, mais c'est pour moi. Rien de tel que le terrain pour sentir une nouvelle équipe.
Notre coup de cœur télé de mercredi est consacré évidemment à Réunion. On en a parlé largement la semaine dernière avec Stéphanie Carrère et Laetitia Milo. On en remet une couche cette semaine et on est très heureux et bien d'avoir Lou Denis Hélion avec nous au téléphone. Bonjour Lou Denis.
Bonjour.
Après nous avoir fait rire pendant près de 10 ans dans Scène de ménage dans le rôle de Cédric, Lou Denis est de retour dans le rôle de Jérémy. Et c'est une belle histoire qui arrive à ce Jérémy, puisque Jérémy, qui habite à Roubaix avec sa femme et sa famille, se voit eh bien hérité d'un hôtel à La Réunion. Si vous avez raté les deux premiers épisodes de mercredi dernier, vous allez voir que cette installation ne s'est pas passée de tout repos. Et donc c'est un beau challenge, une nouvelle très belle série en tout cas qui fait un bien en ce moment, mon cher Lou Denis.
Eh ben oui, écoutez, voilà, je pense que cette série fait du bien pendant ce dur confinement. Elle donne un petit peu d'air. En tout cas, on a pris énormément de plaisir à la tourner et voilà, et les gens sont heureux de ça.
Alors, première série pour toi à La Réunion, c'est la première fois que tu tournais là-bas?
Oui, c'est la première fois que je mettais les pieds à La Réunion. J'ai découvert cette île absolument formidable, que ce soit au niveau des décors, mais aussi au niveau de l'accueil des gens. J'étais vraiment époustouflé par leur gentillesse et leur tolérance. C'était formidable.
Rencontre avec l'équipe aussi, alors c'est ce qu'on disait avec Laetitia la semaine dernière, Nicolas Chupin m'a fait mourir de rire dans cette série, et vos répliques entre vous sont assez extraordinaires. Hein.
Ah ouais, bah, moi j'étais très content de tourner avec Nicolas Chupin, parce que c'est un très grand comédien que le grand public ne connaissait pas, c'est un super comédien de théâtre, et vraiment on s'est éclaté dans nos scènes, bah voilà... C'est le rapport comique par excellence, c'est-à-dire le boulet. Je suis accompagné de ce boulet tout au long des épisodes et ça a été un plaisir fou de jouer avec lui, on s'est vraiment éclaté.
Ça aurait pu s'appeler « Ma femme, son ex et moi » finalement, hein, cette série aussi.
Oui, c'est exactement ça. C'est ça qui m'a fait rire dans le scénario, dès que j'ai vu cette, ben voilà, cette famille surcomposée avec notamment ce personnage de Dom qui traîne tout le temps dans nos pattes. Moi, ça m'a fait délirer. Je trouvais que c'était vraiment une idée excellente.
Alors, qu'est-ce qui t'aura marqué? Qu'est-ce que tu garderas de plus beau comme souvenir de la Réunion et de ce tournage là-bas, par exemple?
Oh, bah, toute l'expérience, était un petit peu dingue, puisque, donc, on est resté 3 mois là-bas, donc, on a eu le temps de visiter, de faire la fête, de rencontrer les gens. Donc, il y avait quelque chose de très intense là-bas. D'ailleurs, la Réunion est appelée l'île intense. Je sais pas si c'est à cause du volcan, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie là-bas. Donc, l'expérience globale était absolument formidable, que ce soit sur le tournage où on s'est éclaté, ou dans les moments de pause où, voilà, on rencontrait les gens de la Réunion, on découvrait les paysages de la Réunion. Donc, c'est vraiment l'expérience globale que je retiens.
Alors, quand on tourne une série comme ça dans les îles, évidemment, voilà, il y a l'histoire à première lecture du scénario qui peut plaire, mais est-ce que la perspective de 3 mois à la Réunion a pesé aussi dans la balance qui t'a décidé à endosser ce rôle de Jérémy?
Alors, c'est avant tout le texte et la localisation, c'est un plus, je dirais. Donc, oui, c'est une chance géniale d'avoir tourné là-bas. Mais vraiment, à la base, c'était le scénario qui m'avait plu.
Quelle est ta scène que tu garderas en mémoire, qui t'a peut-être fait le plus marrer ou qui a eu du mal à se mettre en boîte avec Laetitia Milo, avec qui tu partages la majorité de tes scènes?
Je me souviens d'une scène, alors on est tous ensemble, on est à table, et en fait c'est une scène assez courte que les gens vont découvrir dans l'épisode 5 ou 6, je crois. C'est une engueulade avec Dom autour d'une moutarde. Voilà, tout le monde est très très tendu, et donc Jérémy s'engueule absolument avec tout le monde à table, avec sa belle-fille Vanessa, et avec Dom à cause d'un pot de moutarde. Et je me souviens qu'on a beaucoup ri à tourner cette scène.
Alors, il y a eu des esquisses dans les deux premiers épisodes, hein, que les relations entre la mère de Jérémy et Jérémy n'étaient pas au beau fixe. Et là, il se trouve, eh bien, que cette maman va faire irruption, surprise, à l'hôtel, carrément, à la Réunion, et va débarquer à l'improviste.
Oui. Suite aux appels désespérés de sa belle petite fille, Vanessa, voilà, qui est en pleine crise d'ado, qui ne supporte pas d'être à la Réunion, elle va débarquer pour essayer de remettre de l'ordre là-dedans. Et bien évidemment, Jérémy a des rapports quelque peu compliqués avec elle. Ils sont toujours dans une espèce de chantage affectif. Et voilà, ça fait une autre personne en plus, une autre contrainte entre guillemets en plus pour Jérémy. Il va essayer de mener sa barque malgré sa mère et Dom dans les pattes.
Alors c'est un véritable changement de vie pour Jérémy et sa famille. Est-ce que toi, t'aurais été capable d'un changement de cap et d'un changement de vie comme ça, changer tout du jour au lendemain dans ta vie?
Alors peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que déjà quand j'ai fait le choix d'être artiste, c'était une grande décision. Et donc il y a, je dirais que les changements de cap, c'est un petit peu au quotidien pour un comédien. Voilà, sur ses choix de projet, sur les nouvelles directions. Par exemple, l'arrêt de scène de ménage, c'était une énorme décision à prendre, et pourtant je l'ai prise, et c'était un gros changement de cap, donc je dirais que oui, voilà, j'en serais capable. Alors peut-être pas partir à l'autre bout du monde, comme ça, parce que j'ai des attachements ici en métropole, mais oui, prendre des grandes décisions, ça m'est déjà arrivé.
Est-ce que c'est une série que tu as envie de partager avec le public au long cours, là aussi, que tu as envie de revenir pour une saison 2, une saison 3? Parce que je crois que la productrice fonde beaucoup d'espoir hein, dans cette série et souhaite la développer sur plusieurs saisons. Hein.
Eh ben oui, moi bien sûr, ce sera avec grand plaisir, parce que j'ai adoré faire ce tournage à La Réunion. Donc si le public a envie de nous revoir, avec grand plaisir.
Mais moi, j'en doute pas. En tout cas, vous allez certainement beaucoup vous marrer encore. Mercredi, ça va être les épisodes 3 et 4 de Réunion à ne manquer sous aucun prétexte. Bien évidemment, on va écouter un petit extrait de ces deux premiers épisodes en avant-première dans un instant dans Chut, on écoute la télé. Lou Denis, une petite parenthèse sur Scène de ménage. Ça fait maintenant quelques années que Marion et Cédric ont fait leurs adieux à Scène de ménage. Mais si un jour, pour... on va dire un épisode événement pour un prime time événementiel, Marion et Cédric devaient faire un retour le temps d'une soirée. Est-ce que vous seriez partant ou pas avec Audrey?
Ah bah je sais pas. Alors déjà faudrait qu'on nous le propose. À mon avis c'est encore un petit peu tôt. Voilà, parce que vraiment quand on a pris cette décision d'arrêter la série, c'était vraiment pour faire d'autres choses et aussi entre guillemets pour le public nous oublie un petit peu en tant que Marion et Cédric, même s'il ne nous oubliera pas, j'espère. mais pour l'instant, voilà, je pense qu'on peut prendre le temps, mais qui sait, dans quelques années, évidemment, retourner avec Audrey, ce sera un énorme plaisir.
Alors, est-ce que tu as d'autres projets, le Denis, à part Réunion, là, dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a des choses déjà tournées qui sont diffusées peut-être en 2020?
Alors, juste avant le confinement, je tournais en Thaïlande un coup de foudre à Bangkok pour TF1 avec Blandine Bellavoir. Donc, on a eu beaucoup de chance parce que, bah, hélas, pendant cette période de confinement, il y a énormément de tournages, de projets qui se sont arrêtés. Et donc, nous, on a eu la chance de pouvoir boucler ce super téléfilm parce qu'on s'est éclaté vraiment à le tourner. Ça a été une magnifique rencontre avec Blandine Bellavoir. Et je crois que selon les producteurs, le premier montage est plutôt pas trop mal. Alors je sais pas du tout quand est-ce que ça va sortir. Ça va peut-être sortir beaucoup plus tôt que prévu en raison du confinement. Donc on va voir. En tout cas, j'ai hâte que ça sorte aussi.
Et d'ailleurs, on pourra revoir fin avril, hein, lundi prochain, je crois, le coup de foudre à Bora Bora que Laetitia Milo, ta partenaire de jeu dans Réunion, avait tourné. Il va être rediffusé sur TF1 la semaine prochaine. Merci à toi, Lou Denis, en tout cas d'avoir été avec nous. Et on ne manque pas Réunion, hein, épisode 3 et 4. On va voir que ta maman a un sacré tempérament. Hein.
Oui, carrément. Tempérament de feu. Volcanique, même.
Exactement. Et puis, on reparlera évidemment de Réunion lundi prochain. Ensuite, on écoute la télé avec un autre comédien ou comédienne à nos côtés. Merci à toi. Bon confinement. Prends soin de toi, bien évidemment.
Merci infiniment. Prenez soin de vous aussi. Au revoir.
Le problème, c'est pas l'hôtel en lui-même, c'est les dettes. Depuis la disparition de papa, il tourne en ralenti. On attendait la liquidation.
On va vivre une aventure qui va nous faire du bien à tous. On va sortir de notre zone de confort.
Mais je l'aime bien, moi, ma zone de confort.
Mais regarde ce qu'il a fait, mon frère. Il a traversé tout l'océan, bon sang. Il a tout quitté.
Il était pauvre, il était au chômage.
Antoine, c'est pas si simple de travailler en famille.
On pourrait faire le grand saut. Qu'est-ce qui nous retient à Roubaix, en fait? Nos formidables carrières pleines d'avenir? Nos rendez-vous chez Pôle emploi, les lissages brésiliens, attendre que rien n'arrive?
Par contre, pour le relancer, il va falloir faire des sacrifices.
Oui, mais ça nous connaît.
Non mais là, tu mettais une rustine. Là aussi, il était comme neuf.
Allez, on revient dans un instant avec la suite des coups de cœur de jeudi et notamment Emmanuel Blanchard, réalisateur du documentaire Notre-Dame de Paris, Les secrets des bâtisseurs, tout de suite. Dans Chut, on écoute la télé. Alors, ne bougez pas, on revient.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on continue nos coups de cœur télé et on continue avec ce jeudi, hein, Why Women Kill sur M6, la suite avec le 6e épisode intitulé Tout ce qu'on veut cacher. Alors que Simone demande à Carl de préparer leur divorce, celui-ci souhaiterait entamer une thérapie de couple. Jade, elle, de son côté, se demande si elle doit dire à Taylor qu'elle a eu une relation avec Ellie. Voici tout de suite la bande-annonce.
Vous pouvez tromper votre femme si ça vous chante, mais vous ne touchez pas à la mienne.
Je suis amoureuse de toi.
Tu connaissais les règles. Il n'est pas question que je quitte ma femme.
Le projet sur lequel je travaille est bientôt terminé. Je serai là pour le dîner chaque soir.
Non, ça c'est elle.
Mais c'est Hector. Mon ancien coiffeur, c'était le meilleur.
Ça fait déjà un moment que je suis au courant des égarements de ton mari. J'ai vu sa voiture garée sur le parking d'un motel sordide.
Oh, dites-moi que je rêve.
On se voit plus depuis des années.
Hector est la seule personne à m'avoir accepté pour l'homme que je suis et non pour celui que je ne suis pas.
Pendant que j'étais pas là, vous avez baisé?
Oui, c'est vrai, on a baisé.
Ok, on savait très bien que ça arriverait à un moment ou un autre. Je veux dire, on vit ensemble.
Et jeudi, nouvelle série également sur Arte à partir de 20h55, les trois premiers épisodes de Dérapage avec Eric Cantona et Suzanne Clément. L'histoire d'un ancien directeur des ressources humaines, Alain Delambre, qui survit depuis son licenciement il y a 6 ans. Pendant ce temps, Alexandre Dorfman s'apprête à licencier 1000 salariés et cherche un DRH. Un sujet tristement moderne pour cette série prometteuse dont vous pourrez découvrir donc les trois premiers épisodes dans la même soirée. Extrait.
J'avais été 25 ans DRH, mais après 6 ans de chômage, la condamnation à des jobs minables et à l'humiliation permanente.
J'ai réussi le test.
Les choses vont s'arranger.
Comptez virer combien de personnes à Beauvais?
1250. Pour conduire ça là-bas sans faire de vagues, il va nous falloir quelqu'un de très solide.
Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence.
Je vous propose une prise d'otage. D'un côté, vous aurez le meilleur recruteur, et de l'autre, vous aurez le meilleur cadre.
Ceux qui craquent poubelle.
Sauf que je sais absolument pas comment ça se passe, moi, une prise d'otage.
J'étais le joker du recruteur, maintenant je devais être le plus efficace. Finalement, je n'étais rien d'autre qu'un pion.
J'ai besoin d'une arme chargée à balles réelles.
Alors, ce cadre-là, bouge plus! Maintenant, c'est moi qui décide!
Ils voulaient terroriser leur cadre. Je faisais la même chose.
Mon amour, je veux pas qu'il te fasse le
mal. On a un problème. Je crois que Monsieur Delambre nous a bien baisé, dans les grandes largeurs.
Finalement, mon petit père, on met les cartouches dans le fusil et on lâche les chiens.
Allez, notre coup de cœur télé de ce jeudi 23 avril est consacré à France 5 qui va proposer un très beau documentaire Notre-Dame de Paris, Les secrets des bâtisseurs, alors que la cathédrale a subi un incendie dévastateur il y a maintenant un petit peu plus d'un an. C'est un documentaire sur justement l'origine et la construction de cette magnifique cathédrale qui nous est bien sûr proposée par le réalisateur Emmanuel Blanchard qui avait déjà proposé le documentaire L'épreuve des siècles. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous pour parler de ce documentaire. Alors en plein confinement évidemment, c'est l'occasion de se documenter, d'apprendre aussi Emmanuel.
Oui, c'était un peu ça l'idée. Je vous imaginais bien qu'on n'avait pas idée des conditions dans lesquelles le public aurait l'occasion de regarder ce documentaire. Mais c'est vrai que on est tous dans un moment où on est aussi content de s'évader, d'apprendre des choses, et j'espère que le public sera content.
Alors, vous avez mis combien de temps pour réaliser ce documentaire? Combien de temps vous avez travaillé dessus, enquêté sur les origines de la construction de Notre-Dame de Paris?
Alors, c'est une longue histoire parce que, comme vous le disiez, il s'agit d'un nouveau film qui emprunte certaines images au précédent, L'épreuve des siècles, qui avait été diffusé sur France 2 et qui avait eu d'ailleurs beaucoup de succès public. Donc, c'est difficile de séparer les deux. Ce film-là est donc le fruit d'un long travail, mais c'est un film que je dirais très différent, qui n'a pas grand-chose à voir avec le précédent et qui surtout est très scientifique. C'est-à-dire que là où on avait un docu-fiction, maintenant on a un documentaire qui est plus classique et surtout qui réunit les plus grands spécialistes de Notre-Dame et de l'architecture gothique. Donc il y a aussi bien l'écrivain, auteur de best-seller Ken Follett, que vos auditeurs connaissent certainement, que les grands spécialistes de la cathédrale que sont Dany Sandron, Olivier de Chalut, l'américaine Caroline Bruzelius, ou encore Stéphane Albrecht, qui est un historien de l'art allemand, qui vient de terminer une étude remarquable sur Notre-Dame, qui bouscule un petit peu la chronologie de la construction, en tout cas ce qu'on en savait.
Quels ont été les grands noms qui ont changé peut-être l'histoire ou les facettes de Notre-Dame, Emmanuel, qu'on va découvrir dans ce documentaire?
Alors, on va faire la connaissance de Maurice de Sully, qui est celui qui a initié la construction de la cathédrale, mais surtout on va comprendre que c'est vraiment une œuvre collective, à la fois parce qu'elle a mobilisé sur plusieurs générations des centaines et des centaines d'artisans extrêmement compétents dont on a perdu la trace et évidemment les noms, et aussi on verra que l'histoire de Notre-Dame, elle est aussi au carrefour de la politique, de l'histoire sociale, et que le lien avec la monarchie, par exemple, le fait que Paris, à la fin du XIIe siècle, devienne la capitale de la France, tout ça va avoir un impact très fort sur à la fois la construction de la cathédrale et surtout son destin. Parce qu'en fait, c'est surtout ça qui est sidérant dans l'histoire de Notre-Dame. C'est que c'est pas seulement une cathédrale au sens religieux du terme, elle est devenue un monument national, et au moment de l'incendie, on s'en est tous rendu compte. Et c'est cette histoire aussi que raconte le film. Comment une cathédrale, qui est donc le siège de l'évêque, comment le siège, le centre d'un diocèse, comment cette cathédrale-là va devenir une cathédrale nationale et peut-être même universelle.
Oui, je dirais même mondiale, parce que c'est peut-être le monument, c'était le monument en tout cas, un des monuments les plus visités au monde.
Absolument, c'est un des monuments les plus visités au monde. Et vous me demandiez les personnages qu'on rencontre, j'ai évoqué ceux du Moyen-Âge. Il y en a un autre qui est fondamental et que, je pense, depuis l'incendie, vos auditeurs connaissent et qui vont peut-être apprendre dans ce film à mieux connaître, c'est Viollet-le-Duc, qui est un personnage absolument fascinant, sans qui Notre-Dame ne serait pas parvenue jusqu'à nous, parce qu'elle était en très mauvais état au milieu du 19e siècle, quand il entreprend la restauration. Et c'est un personnage complexe, énigmatique, qui a d'ailleurs soulevé beaucoup de polémiques, beaucoup choqué. Il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté. Aujourd'hui, on apprend à regarder différemment son travail, parce qu'il a réparé la cathédrale, comme on restaurerait aujourd'hui un monument, mais il l'a aussi modifié en pensant, selon lui, retrouver ce qu'elle aurait dû être. Enfin, c'est assez difficile à expliquer. Il faut que vos auditeurs regardent le film. Mais Viollet-le-Duc est persuadé qu'il sait exactement comment aurait dû être une cathédrale gothique. Et il met en œuvre ce chantier avec toutes ses connaissances archéologiques qui sont gigantesques. Je dirais, peut-être que personne n'a jamais aussi bien connu, même aujourd'hui, l'architecture gothique que Viollet-le-Duc. Dans le film, les deux grands historiens font cet aveu-là. Et en même temps, il laisse aller son imagination. Et voilà, la cathédrale que les gens aiment aujourd'hui, elle est une cathédrale du Moyen-Âge, mais elle est aussi une cathédrale de Viollet-le-Duc.
Alors Emmanuel, moi ce qui m'a frappé aussi, c'est la qualité des images de reconstitution, d'animation. Et là pour ça, eh bien notre région, la Nouvelle-Aquitaine, a joué un rôle clé, puisque vous avez obtenu non seulement le soutien de la région, mais du département de la Charente, connu et reconnu en France pour sa qualité dans les images d'animation et du pôle Magélis en particulier.
Hein. Oui, alors le film a été soutenu depuis le début, y compris pour le film L'épreuve des siècles. On a été soutenu par la région Aquitaine, le département, et qui ont tout simplement permis que ce projet voit le jour. Je veux dire, ils ont été des partenaires absolument indispensables. On a travaillé avec une société en Aquitaine qui s'appelle Solidanime, qui a fait une partie de l'animation. On a tourné des images de motion capture à Angoulême, hein, dans les studios de Solidanime. Donc oui, ça a été un partenaire absolument crucial. Et après, l'autre partie de l'animation, notamment les animations techniques, celles où on voit la cathédrale se construire, celles-là ont été faites par un studio à Paris qui s'appelle Motionorama, et un autre studio qui lui a fait, disons, toutes les lumières, qui s'appelle Circus, et qui est également à Paris. Toutes les parties animation ont été faites entre l'Aquitaine et la région parisienne.
Eh bien voilà, le lien est fait en tout cas entre notre belle région et Notre-Dame de Paris pour ce documentaire. Ça a vraiment été quelque chose qui a choqué le monde entier, les images de Notre-Dame de Paris en feu. Comment vous l'avez vécu, vous, Emmanuel, alors que vous deviez déjà être en train de travailler sur ces documentaires à l'époque?
Ah ben oui, pour être honnête, on n'était pas en train de travailler. Ça faisait 3 ans qu'on travaillait, donc on n'était pas à la fin, mais disons, on commençait à en voir le bout. Et évidemment, à titre personnel, moi j'étais tourné, tous les mois j'allais tourner à Notre-Dame des images, je connais bien les gens qui y travaillent, enfin donc quand on a appris que ça brûlait, on a immédiatement foncé voir ce qui se passait, et ça a été une épreuve très 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 dure pour nous. Et en même temps, si vous voulez, c'est venu corroborer le pressentiment que j'avais depuis le début, que ce bâtiment avait un statut à part, et je veux dire, on s'en est bien rendu compte au moment de l'incendie. Les répercussions, la sidération, comme vous le disiez, était planétaire. Elle a été partagée par pratiquement les habitants de toute la planète. Et ce film, Le secret des bâtisseurs, il cherche un peu à répondre à cette question. Et comment ça se fait que l'incendie d'une cathédrale provoque une telle émotion? Voilà, le film cherche à répondre, à rassembler en tout cas des éléments pour répondre à cette question. Il y a évidemment, vous allez me dire, c'était parce qu'elle était belle, mais peut-être pas que. Voilà. Et donc il va falloir plonger, essayer de comprendre en quoi ce bâtiment est unique d'un point de vue architectural, mais aussi en quoi son histoire est unique, les rencontres que le bâtiment a faites, par exemple avec Victor Hugo. Tout ça compte beaucoup aussi dans la notoriété du bâtiment, son emplacement dans Paris. Tout ça, c'est une histoire. Et en fait, voilà, l'idée, ce serait de comprendre que cette cathédrale, ce bâtiment, est pas seulement le produit d'une époque au Moyen-Âge, c'est aussi le produit d'une histoire beaucoup plus longue qui embrasse le 19e siècle de Viollet-le-Duc, mais aussi la Révolution française, l'Empire, la royauté, Louis XIII qui fait son vœu à Notre-Dame. Ouais, c'est une histoire très longue et qui a permis de produire un bâtiment totalement unique dans ce qui symbolise pour les chrétiens et pour les gens qui ne sont pas chrétiens.
Eh bien, ça va être le moment de vous plonger dans l'histoire de Notre-Dame de Paris, les secrets des bâtisseurs. 92 minutes pour en apprendre plus sur l'histoire de Notre-Dame de Paris. Ça sera jeudi, donc à 20h50. Un rendez-vous à ne pas manquer sur France 5. Emmanuel, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous tous. Merci beaucoup.
Et on se retrouve très vite, j'espère, pour un prochain projet. Et nous, on va terminer avec un petit extrait de ce documentaire. À bientôt.
À bientôt.
L'architecture nationale française, c'est le gothique. C'est Notre-Dame de Paris.
Un projet monumental.
Les rosaces de Notre-Dame sont ce qu'on peut imaginer de complexe en architecture.
Plusieurs fois reconstruit.
Si on avait laissé faire les choses, la cathédrale serait par terre.
Et qui le sera encore.
Une des choses que nous avons réalisées, c'est combien Notre-Dame était importante pour les gens partout dans le monde.
Notre-Dame de Paris. Les secrets des bâtisseurs, jeudi à 20h50 sur France 5. Tous nos programmes à retrouver sur France.tv.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le plaisir pour la dernière semaine de diffusion inédite de Plus belle la vie, et bien d'avoir Annie Gregorio qui sera notre invitée exceptionnelle. Nous aurons le plaisir également de passer un coup de fil à Stana Romillac qui incarne Prune dans la série Ainsi Grand Soleil. Elle nous fera découvrir sa web-série qui vient juste de sortir sur Internet. Nous terminerons également l'émission la semaine prochaine avec le DJ Eugène de Rastignac qui viendra nous présenter un tout nouveau single. Vous l'avez compris, encore de bien belles choses qui vous attendent lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Sans oublier vos applications sur iPhone et Android, Chut, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain pour les quotidiennes aux environs de 7h20, 8h45 et 11h sur Radio Bulle. Pour l'hebdo, retour lundi prochain à partir de 19h. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes. À demain.
Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Beauvais près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur réal-chocolat.com. Réal Chocolat fait naître la gourmandise.
Chut, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.